Vous écoutez
RMC. RMC, Estelle Midi.
13h04 sur RMC, on poursuit Estelle Midi avec le constat du jour. Il a été fait par France Travail, l'ex-Pôle emploi. Selon l'organisme, un tiers des chômeurs ne seraient pas en recherche active de travail. 17% des chômeurs ont été sanctionnés, tandis que 18% ont eu besoin d'être redynamisés. Concrètement, Rémi, ça représente combien de personnes?
Alors, en catégorie A, avec 3 200 000 personnes sans aucune activité et inscrites à l'heure actuelle à France Travail, ex-Pôle emploi, cela fait environ 500 000 personnes qui ne chercheraient pas un emploi avec assez d'ardeur. En sachant que près de la moitié des contrôles ont concerné des métiers en tension, donc des secteurs pour lesquels il n'y a pas de difficulté de recrutement, a priori. Pour autant, ces contrôles n'accélèrent pas forcément le retour à l'emploi. C'est ce que dit aussi cette étude. 6 mois après qu'ils aient été effectués en 2022, ces contrôles, 49% des demandeurs d'emploi contrôlés avaient retrouvé un job, mais il ne s'agissait d'un emploi durable, donc CDI ou CDD de plus de 6 mois, que dans 17% des cas. Alors même que les modalités de ces contrôles vont évoluer dès l'année prochaine, à partir de cette date, donc 2025, elles seront plus globales, ces modalités. C'est le comportement général du demandeur d'emploi qui sera apprécié selon un certain nombre de critères. Les contrôles seront aussi plus nombreux. Ils doivent tripler d'ici 2027, en tout cas c'est l'objectif, passant de 500 000 par an à 1,5 million.
Alors, un tiers des chômeurs qui ne recherchent pas activement un travail, est-ce que ça vous choque, Fred Hermel?
Alors c'est vraiment du cas par cas dans ce domaine, vraiment, et c'est toute la difficulté des gens de France Travail, qui est un joli nom d'ailleurs, j'aime bien France Travail, il y a un côté positif dans le changement, moi j'aime beaucoup. Ben oui, on... Non. Enfin bref, le... Parce que vous avez quelqu'un de 25 ans qui joue avec, et on sait, avec aujourd'hui c'est 6 mois, 6 mois après, pendant 6 mois, il bénéficie du chômage, et puis il recommence, etc. À 26 ans, à 25 ans, on doit travailler en plein temps et ne pas bénéficier de la solidarité collective.
Bah, sauf si tu en as besoin.
Bah oui,
tout le monde ne travaille pas dans un secteur en tension.
Mais non, mais je veux dire, dans ces cas-là, tu touches l'argent, on voit très bien le petit manège. Là, je trouve normal qu'on sanctionne, qu'on contrôle et qu'on sanctionne. Ensuite, le cas de quelqu'un qui a 55 ans, qui a travaillé pendant 30 ans dans la même entreprise, qui a 50 ans se fait virer, parce que voilà, un plan social, etc., qui essaye évidemment de retrouver un emploi pendant 2-3 ans, et à un moment, il n'en peut plus. On lui répète toujours la même chose. Il a des entretiens, mais on lui dit, monsieur, vous êtes trop vieux ou vous êtes trop qualifié pour le poste, parce que ça arrive tout le temps, désormais, c'est une galère pour les seniors, entre guillemets. Ben là, je pense qu'on doit être beaucoup plus souple pour quelqu'un qui, à un moment, ne fait pas de recherche active parce qu'il a fait pendant 2 ans et qu'il ne trouve pas de travail et qu'on ne répond pas à ses demandes, donc à ses propositions. Donc, oui, c'est vraiment du cas par cas. Donc, je pense qu'on ne peut pas sanctionner de la même manière quelqu'un de 55 ans qui est lassé de ne pas avoir de réponse avec quelqu'un qui profite du système à 25 ans.
Oui, et puis de toute façon, encore une fois, on touche au chômage quand on a cotisé. Donc, quelque part, c'est l'argent qu'on a donné.
Si, par exemple, le nombre de mois de cotisation a été augmenté par le gouvernement, c'est bien parce que pour pouvoir avoir les droits au chômage, c'est bien qu'il y avait des gens qui exagéraient.
Oh, voilà, donc toutes les décisions du gouvernement sont pas forcément basées sur un constat hyper scientifique.
Surtout pour économiser de l'argent. Hein. Je pense Anne-Sophie Saint-Père, est-ce que c'est bien que France Travail donne ce genre de chiffres?
Alors moi, sur la manière dont on donne, là, un tiers des chômeurs ne cherchent pas un emploi. Oui, mais c'est un peu trompeur parce que c'est 17% qui ont été sanctionnés, 18% qui ont été redynamisés, donc qui avaient potentiellement besoin d'un accompagnement pour chercher de l'emploi. Et en fait, si on regarde, c'est-à-dire que donc il y a 83% des chômeurs qui cherchent et c'est relativement stable. Et c'est relativement stable. Et en fait, moi, ce qui me pose problème, c'est qu'on stigmatise des chômeurs. Et alors, je ne vais pas rester que sur le chômeur de 50 ans parce qu'en fait, à 25 ans, on peut aussi être en grande difficulté parce qu'en fait on n'a pas assez d'expérience, que on ne sait pas bien chercher du boulot.
Mais ceux-là ils sont pas comptabilisés dans les un tiers de chômeurs en fait. Donc le problème c'est les un tiers de chômeurs qui ne recherchent pas activement.
Oui, c'est pas les chômeurs, c'est le problème. Il y a quand même un effet de stigmatisation du chômage, alors que ça peut être très difficile. On le voit, hein, là, il y a eu plein de fermetures d'enseignes, de fermetures d'usines. Il y a des gens qui se retrouvent au chômage du jour au lendemain.
Mais ceux-là ne sont pas concernés par ce titre.
Ils peuvent ne pas être en recherche active parce qu'ils sont en dépression, parce qu'ils sont en choc, parce qu'ils savent pas vraiment comment faire, parce qu'ils l'ont jamais trop fait, parce que il y a aussi tous les gens qui perdent leur emploi suite à du harcèlement et qui peuvent mettre quelques mois avant de rebondir. Ça arrive quand même dans beaucoup de cas. Donc effectivement, il faut faire du cas par cas, faut pas stigmatiser les chômeurs parce qu'il y en a quand même beaucoup qui sont dans des situations qui sont extrêmement compliquées. Et d'ailleurs, il faut quand même rappeler que 60% des chômeurs ne sont pas indemnisés, que la moitié des chômeurs indemnisés travaillent mais ont des emplois qui sont beaucoup trop courts, précaires pour être comptés, que on parle des emplois non pourvus mais ça représente 200 300 000 emplois dont 55% seulement sont des emplois durables, donc 45% ne sont pas des emplois durables. Donc pour les 2,3 millions de chômeurs, ça ne va pas suffire. Donc de toute façon, on a un problème de chômage et il faut se poser la question aussi d'ailleurs, et stigmatiser les chômeurs, ça permet aussi de ne pas réfléchir à quel est le plan, quel a été l'effet du plan de relance du gouvernement, qu'est-ce qu'on a fait en termes de politique publique pour relancer l'emploi. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'automatisation de certaines fonctions, de fait ça va créer du chômage, qu'est-ce qu'on fait avec ça. On a reculé l'âge de la retraite, de fait on a fait rentrer des personnes qui étaient plus âgées
dans les contrôles qui ont été effectués par France Travail dont on parle là, la moitié ont été faits sur des métiers qui sont en tension.
Voilà,
il y a de la demande.
Oui, mais encore une fois, sur la question des métiers en tension, on a déjà eu l'occasion de le dire, c'est que d'une part, il y a la question des formations, il y a la question de la localisation géographique.
Quand tu es dans la restauration et que tu es serveur, il n'y a pas trop de formation.
Oui, mais il y a la question de la localisation, c'est pas forcément là où on habite.
D'accord.
Et puis par ailleurs,
apparemment, il y a du boulot partout.
Il y a aussi la question du type de contrat. Si on est vraiment sur du contrat très court, qu'on risque de perdre.
Et c'est pour ça qu'il y a des contrôles, en fait. Et justement, c'est pour voir si la personne, effectivement, elle recherche activement un travail ou si elle ne le recherche pas, tout simplement.
Clairement, ce que dit Pôle emploi.
Si t'habites à Lille et qu'on te propose un boulot à Clermont-Ferrand, évidemment, si tu dis non, il y a une logique.
J'entends ce que tu dis, mais très clairement, selon ces statistiques qui ont été données par France Travail, il y a au moins la moitié des contrôles qui ont été effectués, encore une fois, sur des métiers en tension. Donc, ça veut dire que parmi les personnes qui ont été épinglées, comme ne faisant pas suffisamment d'efforts, c'est que clairement, elles avaient la possibilité de trouver un travail et qu'elles ne le faisaient pas.
Alors après, moi, vraiment, je pense qu'il faut faire du cas par cas. J'ai eu des périodes de chômage où à un moment, évidemment, pour bien faire les choses, on envoie des lettres de motivation. On sait qu'on va pas être pris. C'est ridicule. Et du coup, il y a aussi perdre du temps aux ressources humaines envoyer des candidatures un peu absurdes juste pour montrer qu'on fait. Il y a un moment où on pourrait aussi avoir une pratique intelligente de la recherche d'emploi.
Jérôme Lavrieux, est-ce qu'il faut quand même distinguer, on va dire comme le disait Fred, des chômeurs qui ont cotisé pendant plus de 20 ans et d'autres qui sont beaucoup plus jeunes et on va dire qui profitent du système, même s'ils ne sont pas les plus nombreux, évidemment.
Mais le cas que citait Fred sur les personnes d'un certain âge qui n'arrivent pas à retrouver du boulot, elles ne sont pas concernées. Parce que à la fin de leur indemnité, si elles n'arrivent pas à faire, elles versent dans ce qu'on appelle l'allocation spécifique de solidarité.
Oui.
Ils sortent du chômage. Non, mais ce que je veux dire, juste une chose, c'est que les sanctions, elles visent pas ceux qui ne trouvent pas de travail. Elles visent ceux qui n'en cherchent pas.
Oui.
Personne n'est sanctionné parce qu'ils ne trouvent pas de travail.
Non.
C'est ceux qui volontairement ne cherchent pas de travail.
Mais tu comprends que certaines personnes peuvent être lassées à un moment parce que pendant 2-3 ans, quand t'as plus de 50 ans, t'as essayé qu'on veut pas de toi.
Je finis ma démonstration. C'est que moi, ce qui me choque, c'est quelqu'un qui a le droit à une indemnité, qui est certes le fruit d'une cotisation. Mais qui est surtout le fruit d'une solidarité nationale, parce qu'en cas de déficit, c'est l'argent de l'État,
c'est-à-dire de nous. Enfin, c'est quand même une personne qui a cotisé, donc.
Oui, mais ce qui me choque, c'est il y a un boulot qui correspond à ta formation, qui est pas loin de chez toi, et tu le prends pas. Ça me choque.
Oui, mais sauf que en fait, tu le prends pas, mais ça va durer un an. T'as 55 ans, d'accord. Oui. T'as bossé toute ta vie, etc. Oui. T'as bossé pendant 30 ans.
Oui.
Donc t'as beaucoup cotisé, hein, oui. D'accord. Alors, avant, tu pouvais toucher 5 ans de chômage. Maintenant, c'est un an et demi. Donc là, déjà, t'as un peu les boules par rapport à un chômeur d'il y a 10 ans. Mais pourquoi pas? Là derrière, peut-être que t'es fatigué en fait, et peut-être que pendant un an, et t'as juste envie de te reposer. Et moi, franchement, je le comprends parce que cette personne-là, elle a énormément cotisé. Exactement. Et qu'elle profite de ses cotisations. Mais moi, je te le dis, ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas pour quelqu'un qui a 50 ans. Ça me choque un petit peu plus pour quelqu'un qui en a 25. Mais si tu veux, moi, que la personne pendant un an, elle n'ait pas envie de retrouver tout de suite. Moi, je peux le comprendre. Et encore une fois, je veux dire, c'est son argent.
Non.
Si la personne qui a cotisé 30 ans, crois-moi, elle coûtera moins cher à la société que ce qu'elle a cotisé.
Mais non, parce que c'est pas comme ça que notre société, on a décidé de l'organiser. Ça veut dire que moi, ma retraite, c'est j'épargne pour ma retraite alors. Alors qu'en fait, que quand je cotise, c'est pas pour ma retraite, c'est pour les gens qui sont déjà en retraite.
Oui.
Quand je cotise au chômage, je m'ouvre pas le droit à une somme
pour
le jour où je serai au chômage. Je cotise pour ceux qui sont au chômage maintenant.
Oui, mais la personne, sinon, la personne qui a travaillé 30 ans, elle a quand même le droit de se dire qu'elle a quand même beaucoup cotisé. Et si elle veut glander un petit peu, c'est quand même pas un problème.
Les gens qui ont 50 ans, ils demandent pas 2 ans de congé sabbatique payé par le contribuable.
C'est pas un congé sabbatique,
ils demandent à trouver un travail, ils veulent trouver un travail.
Oui, en fait, je pense que c'est...
Et au bout de leur indemnité, ce qu'ils cherchent à tout prix, c'est de trouver un travail. Ils demandent pas à se reposer pendant 2 ans.
Non, mais t'as aussi le droit, enfin, je suis désolée, de prendre un peu de temps pour toi quand t'as cotisé pendant 30 ans.
Sort de ce corps, Sandrine Rousseau.
Non, mais ça n'a rien à voir. Mais non. Encore une fois, je distingue le chômeur qui a 30 ans de boîte et celui qui a 2 ans de boîte. Pour moi, c'est pas du tout la même chose et l'âge compte aussi. Parce qu'encore une fois,
ça s'appelle une pré-retraite.
Les conditions, elles étaient 10 fois plus généreuses il y a quelques années. Et là, pour les chômeurs aujourd'hui qui ont 55 ans, c'est vraiment la double peine. Un, ils ont la retraite, ils doivent se taper 2 ans de boulot de plus. Et deuxièmement, ils sont 10 fois moins indemnisés qu'avant. Ben moi, je peux comprendre qu'à un moment, t'aies juste envie un peu de profiter de toutes les cotisations que t'as versées durant tes 30 ans de travail. Ça ne me choque pas.
Ça s'appelle de l'épargne. Tu sais que moi j'ai été au chômage pendant 2 mois. Tout ça pendant le Covid, obligatoirement, j'ai bénéficié de parce que j'avais plus mes piges parce qu'il y avait plus de foot. Donc j'ai bénéficié de piges pendant 2 mois. Je n'ai jamais eu recours au chômage. Je bosse depuis que j'ai 18 ans. Voilà. Et ben j'ai eu cette réflexion qu'avait Estelle en disant. Ça m'a fait bizarre en fait. Je reconnais, ça m'a fait bizarre. Mais c'était automatique. Enfin, tu vois, en plus, j'ai pas fait la démarche. Ah, c'est une entreprise, un journal pour lequel je travaillais aussi, qui voilà, naturellement, qui m'a compensé les piges non versées pendant 2 mois. Au début, ça me faisait bizarre. Et après, je me dis, en fait, Fred, depuis que t'as 18 ans, tu payes et tu ne profites de rien. Et tu payes plein pot, etc. Donc, je me suis pas senti, j'ai pas eu le sentiment de voler la société. Parce que ça faisait des années que je cotisais pour les autres. Et là, c'était 2 mois seulement.
Alors, on a énormément d'appels, au 32-16. On sera avec Benjamin Hamard également, tout à l'heure, notre chroniqueur qui est également militant CGT. Mais tout de suite, on va prendre en ligne Sophie qui nous appelle du Gers, de Riscle dans le Gers et qui est en recherche d'emploi depuis 1 an et demi. Bonjour, Sophie.
Bonjour Estelle, bonjour à toute l'équipe.
Bonjour Sophie.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Sophie, est-ce que vous faites partie des chômeurs qui recherchent activement un travail?
Ah oui. Bah écoutez, moi c'est vrai que j'ai été licenciée suite à un burn-out.
D'accord.
Et en plus, j'ai des problèmes de santé, donc je suis reconnue travailleur handicapé.
Ok.
J'ai 51 ans passé. Mm-hmm. On habite à la campagne, donc c'est très compliqué déjà pour déplacer. Alors déjà, faut pas parler de transport en commun, c'est impossible.
Oui.
Ensuite, pour trouver du travail dans l'accueil, dans le secrétariat, c'est très compliqué aussi. Mm-hmm. Et j'ai postulé pour au moins une bonne cinquantaine de postes. Et c'est toujours « on vous rappellera ». Alors la phrase « on vous rappellera », je la connais par cœur.
Ouais.
Il faut savoir une chose, parce que moi, mes droits se finissent au 25 avril, mais après, je n'ai droit à rien du tout. Comme je suis mariée et que mon mari travaille, on n'a droit à rien du tout. J'ai droit à mes 500 euros de pension d'invalidité et c'est tout.
Ouais, mais quand vous allez faire comment, Sophie?
Ah ben je sais pas. Je continue à postuler. Alors, c'est vrai que comme je disais tout à l'heure, une de personne, c'est vrai que... C'est que c'est sûr qu'il faut pas postuler n'importe quoi, mais moi, si je suis désolée, je postule pour n'importe quoi. Parce que j'ai pas le choix, parce que, voilà, je vais me retrouver sans rien et je sais pas du tout comment faire. Je postule pour des offres d'emploi, je sais que j'ai pas le niveau, parce que maintenant, il faut minimum le niveau bac plus 2, voire plus, parler l'anglais facilement, enfin, c'est des choses que je sais pas, mais je postule quand même. Je me dis, ma foi, mais qu'est-ce que je risque? Qu'on me dise non, au point où j'en suis, je suis plus à ça près.
Sophie, vous cherchez dans quelle branche? Dans le secrétariat, c'est ça?
Voilà, secrétariat et l'accueil.
Merci beaucoup, en tout cas, Sophie, d'avoir été avec nous. Et puis, on vous souhaite bon courage dans cette recherche d'emploi. Voilà, Sophie, elle recherche très activement
mais
un emploi.
Elle n'est pas concernée par les sanctions?
Non, bien sûr. Non, mais c'est dur de se dire que Sophie, voilà, elle recherche un emploi, elle le recherche activement, elle ne trouve pas. Parce qu'encore une fois, effectivement, si vous voulez être serveur dans la région parisienne, ou vendeur dans un magasin, il n'y a aucun problème. Mais quand vous êtes à Riscle, dans le Gers, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué, notamment avec les transports en commun. Merci, Sophie, en tout cas, d'avoir appelé. Fabien, lui, il est conseiller France Travail depuis 4 ans. Il nous appelle du Nord. Bonjour Fabien.
Bonjour à tous et à toutes.
Fabien, est-ce que vous corroborez ces statistiques? Un tiers des chômeurs ne recherchent pas activement un travail?
Non. C'est un peu plus fin que ça en réalité. Alors, le découpage des 35% qui fait à peu près 17% de sanctions et 18% de redynamisation, pardonnez-moi, ou l'inverse, on est plutôt là-dessus. Après, moi, je veux juste rapidement mettre en perspective une chose. Qu'est-ce qui amène à ce qu'on appelle un contrôle de recherche d'emploi? Deux choses. La première, soit le picking, soit du picking, j'aime pas les anglicismes, mais force est de constater que c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est-à-dire que les conseillers qui font du contrôle, qui ne font, c'est leur travail, font du picking sur effectivement effectivement, vous l'avez dit, notamment les métiers en tension, comment avec les codes ROM des métiers, etc. Ça, c'est une première des choses. Et puis, la deuxième, c'est quand les conseillers, comme moi, par exemple, ou mes collègues, décidons que trop, c'est trop, et qu'on estime qu'à un moment donné, il n'y a pas d'acte positif de recherche d'emploi depuis un certain temps. On a déjà rappelé les droits et les devoirs une fois, deux fois, trois fois, bref. Au bout d'un moment, on se dit, bon, là il faut l'envoyer au creux, donc on contrôle de recherche d'emploi, pour voir un petit peu ce qu'on peut faire. Et puis,
comment on contrôle, Fabien, comment on sait que la personne elle a envoyé un ou 50 CV?
Alors, c'est là où... Alors, il y a plusieurs façons de faire. Si la personne postule via, par exemple, Pôle emploi.fr ou via un autre site de chez nous qui s'appelle La Bonne Boîte, et que je recommande, par exemple, à notre auditrice qui est passée juste avant, La Bonne Boîte, allez-y, où il y a peut-être Sophie, il y a peut-être des opportunités sur ce site via les candidatures spontanées, parenthèse fermée. Donc, effectivement, si les demandeurs d'emploi postulent via ce canal-là, nous, on a forcément... dans leur dossier, c'est incrémenté systématiquement avec telle date à postuler à telle offre, et puis on a le résultat de la candidature. De même, si nous, on les positionne avec leur accord sur des offres, ou on peut faire également de la promotion de profil.
D'accord.
Donc ça, voilà. En revanche, quand on passe sur d'autres sites, d'autres canaux de recherche d'emploi, même si globalement, les offres sont les mêmes à peu près sur tous les canaux. C'est pour ça que quand on dit il y a plus d'un million d'offres, non, c'est faux. C'est des offres qui sont effectivement multipliées à un certain nombre de canaux, mais c'est les mêmes. Quand ils passent par ces canaux-là, là, effectivement, on dit toujours, gardez des mails, garder des choses comme ça, des traces, parce que le jour où on va vous le demander, comment ça se passe un contrôle? Vous recevez une petite convocation qui vous dit bonjour, je suis monsieur, madame Intel, je suis là pour contrôler le contrôle de recherche d'emploi, je vous programme un rendez-vous dans 15 jours téléphonique, en attendant je vous envoie un questionnaire que je vous demande de compléter avec l'ensemble des éléments et des recherches que vous avez fait ces 4 derniers mois. Il faut se dire une chose, il n'y a encore pas si longtemps, on remontait sur 12 mois.
Okay.
Aujourd'hui, on remonte sur 4 mois. Quelqu'un qui vient de s'inscrire, on prend l'exemple qui a été donné tout à l'heure. Vous venez de vous inscrire, vous vous êtes fait lourder de votre entreprise après 30 ans, ou alors vous faites un burn-out qui arrive quand même assez régulièrement.
Exactement.
Et bien du courage aux personnes, mais je vous le dis, personne au bout de 4 mois a fait la moindre démarche quand il sort d'un burn-out.
Bien sûr, vous avez raison.
Entreprise, c'est une évidence. Et je veux dire, 4 mois, c'est même pas 4 mois, c'est même pas 8, c'est même pas souvent 12. Donc il faut pas... voilà. Donc après, j'écoutais M. Lavrieux tout à l'heure, avec tout le respect que j'ai pour lui, mais malheureusement, votre réflexion, elle est, à mon sens, beaucoup trop dogmatique, voire même limite. On a l'impression que vous maniez un tableau Excel. Et c'est pas comme ça, la vie. Et moi, si vous voulez, venez une journée avec moi, je vous convoque 10 demandeurs d'emploi de 10 horizons différents, et vous allez voir que ça tient pas. Ça peut pas tenir. On peut pas dire, il y a un poste, j'ai un 0 là, j'ai un 1, je les mets à 2, enfin j'ai un moins 1, j'ai un 1, je les mets à 2, ça fait 0, c'est super.
Mais
c'est pas comme ça que ça fonctionne.
Mais j'ai pas dit, je suis pas pour sanctionner les gens qui ne trouvent pas de travail. Je suis pour sanctionner les gens qui sciemment ne recherchent pas de travail. C'est totalement différent. Et pour votre gouvernement, j'ai été au chômage. Inscrit à Pôle emploi pendant 2 ans avec 0 indemnité, malgré le fait, Estelle, que j'ai cotisé toute ma vie en tant que cadre, et tout ça parce que j'avais dépassé le délai d'inscription de 15 jours à cause du Covid. Donc je fréquentais, j'ai vu ça, et dans ma profession, on m'a bien entendu jamais rien proposé. Mais donc voilà, j'ai aucun problème là-dessus. Moi, je suis pas pour sanctionner qu'il y a fait quelqu'un qui fait un burn-out, qui peut pas, il va jusqu'à épuisement de ses droits au chômage, ça me pose aucun problème philosophique. Je dis juste que l'organisation de la société, c'est pas un tableur Excel et fait ainsi, c'est qu'on n'en a pas pour son argent. C'est-à-dire pas, c'est pas la somme qu'on a cotisée, qu'on a épargnée, qu'on a le droit d'épuiser un jour ou l'autre. C'est pour payer le chômage des autres.
Merci en tout cas Fabien d'avoir été avec nous. Fabien qui est conseiller France Travail depuis 4 ans. Notre invité sur ce débat, c'est Benjamin Hamard. Il est porte-parole CGT du Val-de-Marne. Bonjour Benjamin.
Bonjour Estelle.
Et merci d'être avec nous, Benjamin. J'imagine que ça vous a agacé, cette stade de France Travail.
Mais avant que ça m'agace, déjà, je pense qu'il faut qu'on s'accorde quand même sur le diagnostic qui est posé. Moi, je l'ai lu et je l'ai sous les yeux, le dernier rapport de France Travail. Mmh. Il est écrit, je cite, noir sur blanc. C'est donc au total 17% de l'ensemble des demandeurs d'emploi contrôlés, jugés en insuffisance de recherche, qui ont fait l'objet d'une sanction.
Oui, bah ça, on l'a dit.
C'est pas qu'on se mette d'accord sur le chiffre.
Non, on a dit 17 qui ont été sanctionnés, 18%, ils ont eu besoin d'être redynamisés.
Non, mais attendez. Moi, je viens de vous citer le rapport. Donc, je pense que.
Bah, nous aussi, on l'a lu et voilà, il y a 17 plus 18, ça fait 35.
C'est écrit noir sur blanc. Faut être factuel, hein. Les faits sont toujours têtus.
Bah, c'est ce qu'on fait.
17% des chômeurs qui ont été sanctionnés.
Oui, non, mais on est d'accord.
Contrôlés, s'il faut être précis.
Et pour le reste du tiers, ce sont les chômeurs qui auraient dû être remotivés.
Et il me semble que le principe dans l'émission, c'est que quand l'invité parle, on le laisse terminer son raisonnement.
Vas-y,
même si ça ne plaît pas trop, on va quand même me laisser développer jusqu'au bout mon raisonnement. Ce que je dis, et qui est écrit sur le rapport de France Travail, c'est que 17% des chômeurs ont été sanctionnés, et que donc 83% des autres ne l'ont pas été. C'est ça la réalité factuelle. Donc si on veut poser une question, faut déjà donner le bon chiffre. Et mieux, il est signalé que lorsque les contrôles sont aléatoires, c'est 91% des chômeurs contrôlés qui ne sont pas sanctionnés. C'est ça la réalité. Et moi, je suis là pour donner d'autres chiffres qui sont exacts et reconnus par tous parce qu'ils sortent de France Travail. C'est 9% des, plus de 30% des chômeurs qui touchent une indemnisation.
Oui, mais ça, on l'a dit aussi. Hein.
Ah, mais, ben donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que alors que seule une minorité des chômeurs touche une indemnisation, une ultra-majorité de chômeurs sont dans les clous du point de vue des critères de France Travail.
Bah oui, oui.
Donc ça veut dire qu'en réalité, et ces chiffres, je l'ai entendu tout à l'heure sur le plateau, ces chiffres sont stables depuis des années. Autrement dit, depuis des années, on contrôle de plus en plus les chômeurs, on leur pond réforme de l'UNEDIC sur réforme de l'UNEDIC pour une régression de leurs droits. Et pourtant, eux, dans leur pratique, ils sont toujours ultra majoritairement dans les clous.
Oui, donc ça sert à rien, tout ce que fait le gouvernement, c'est ça que vous voulez dire, en fait.
Eh bien, bien évidemment, ou plutôt, disons les choses autrement.
On aurait pu le dire plus vite.
Le postulat de départ du gouvernement, c'est qu'en fait, les chômeurs, dans leur grande majorité, sont responsables du chômage parce qu'ils ne cherchent pas de travail. C'est démontré enquête après enquête que c'est faux. Mais ça n'est pas grave, on continue sempiternellement à reproduire les mêmes politiques. Et à stigmatiser toujours les mêmes. D'ailleurs, vous le savez très bien, Gabriel Attal a proposé une énième réforme
baisse de la durée d'un indemnisation,
troisième. Et cette troisième réforme, elle va dans le même sens. Et c'est insupportable, tout simplement.
Bah, merci beaucoup, Benjamin Amar, d'avoir été avec nous. Benjamin, qu'on retrouvera évidemment très vite dans Estelle Midi, très rapidement.
Ce qui est intéressant sur la durée du chômage, c'est que par exemple, en Belgique, il y a le chômage à vie, et il y a moins de chômage qu'en France. Donc finalement, ça n'a pas vraiment d'impact sur la lutte contre le chômage.
Mais de toute façon, on
pressuriser les chômeurs, ça n'a pas forcément d'impact. Ça peut avoir un impact sur les salaires, parce qu'on accepte des boulots à des salaires plus bas.
Et on attend de voir l'étude d'impact, hein, quand même, sur cette réduction de la durée d'indemnisation, parce qu'à un moment, on va peut-être savoir si ça marche ou pas. Ce serait bien d'avoir quand même quelques chiffres, parce que là, on risque d'avoir une nouvelle baisse de la durée d'indemnisation, mais sans savoir si la baisse d'avant a marché, ce qui est quand même un petit peu étrange. On termine avec des messages, Rémi.
Allez, j'ai ce message de Tristan qui nous dit « Je suis directeur régional dans le commerce et ces statistiques ne sont pas surprenantes pour moi. Nous sommes en difficulté de recrutement depuis plusieurs années, avec des CDI à temps complet toujours vacants. Il faut remettre la France au travail. »
Un tiers des chômeurs ne cherchent pas d'emploi activement. Est-ce que ça vous choque? Ça donne quoi ce sondage?
C'est choquant pour 56% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux.
Mais c'est pas une très très large majorité. Allez, on va dire que c'est dans la marge d'erreur.